Au fur et à mesure que nous approchons de la fin de l'année liturgique, exactement dans 2 semaines, cette année liturgique qui est comme une sorte de résumé sur une année de tout le mystère du salut, eh bien, au fur et à mesure que nous approchons de cette fin, les évangiles et les autres lectures nous invitent à méditer justement sur la fin des temps. Fin des temps accompagnée d'événements extraordinaires, peut-être terrifiants, mais surtout en pleine cohérence avec le mystère même de toute la création. Si on arrive à la fin des temps, et ce jour viendra, il est normal que les astres, le soleil et la lune, qui avaient été créés justement pour marquer les temps, les fêtes et les saisons, nous dit le livre de la Genèse, 4e jour de la création, eh bien si le temps arrive à sa fin, il est normal que les astres aussi connaissent leur extinction. Il est vraiment intéressant de noter que cette fin des temps concerne tout le cosmos, pas seulement l'homme, mais elle révèle au contraire cette solidarité interne à toute la création dont nous-mêmes faisons partie, bien évidemment. C'est une idée qui est déjà très présente dans la Bible. Nous la redécouvrons aujourd'hui, peut-être un peu tard, mais heureusement, nous sommes en train de la redécouvrir, spécialement avec l'enseignement du pape François et son grand texte, Laudato si. Mais cette idée plonge ses racines déjà très loin dans l'Ancien Testament. Je me contenterai de citer un seul texte parce qu'il fait sourire. Dans le livre de Jonas, alors que Jonas est envoyé dans la ville de Ninive, la ville païenne, il y est envoyé pour prêcher la conversion, nous remarquons que non seulement les hommes font pénitence, mais les animaux aussi font pénitence et, nous dit le texte, ils jeûnent avec les hommes. Soulignant ainsi cette mystérieuse solidarité qui existe entre toutes les créatures, qui forme en effet une harmonie. Et saint Paul lui-même, bien des siècles plus tard, écrira que c'est toute la création qui est dans l'attente d'un enfantement qui dure encore. Cela nous permet peut-être de relativiser l'aspect extraordinaire de ces images que l'on pourrait qualifier d'apocalyptiques, mais qui en fait s'inscrivent vraiment en pleine cohérence avec tout le mystère de la création également du temps, lui aussi appelé à avoir un terme. Nous sentons que ce texte nous interroge. Peut-être même que par certaines de ses expressions, il nous terrifie. Que sera donc cette venue du Fils de l'homme ? Il y a un petit adjectif dans ce texte qui nous donne une réponse. Voici que le Fils de l'homme est proche. La proximité du Fils de l'homme n'est pas quelque chose de maléfique, au contraire, puisqu'il est notre Sauveur, notre seul et unique Sauveur. Cette remarque nous permet de beaucoup relativiser ce qui pourrait y avoir de terrible dans ce dernier jour, dans cette fin des temps. Car enfin, quand notre Sauveur s'approche de nous, c'est pour sauver. Ce n'est pas pour accomplir quelque chose de mauvais. Et nous sentons aussi que lui, en tant que maître de l'histoire des hommes, en est vraiment le centre. Il en est comme l'origine, il en est l'origine, il en est le terme, l'aboutissement, c'est-à-dire au fond ce point central autour duquel gravite toute l'histoire des hommes. Une histoire que nous savons marquée à chaque génération de malheur. Nous sommes facilement enclins, parce que nous avons la mémoire courte, à penser que notre génération est celle qui, de toutes les générations humaines, souffre le plus. Mais enfin, songeons, il y a quelques jours à peine, c'était le 100e anniversaire de l'armistice de 1918, Première Guerre mondiale, des millions de morts. Ne croyez-vous pas que tous les soldats qui avaient participé à cette guerre pouvaient penser que c'était l'heure de l'apocalypse ? Et comme si ça ne suffisait pas, il y eut la Deuxième Guerre mondiale, plus terrible encore. Et que pensez-vous de ce que pouvaient comprendre ceux qui ont vécu la Shoah, par exemple, pour ne parler que d'eux ? Nous devons apprendre à relativiser nos malheurs. Trop souvent, nous nous plaignons comme si nous souffrions, comme personne n'aurait souffert avant nous. C'est tout simplement faux. Et en ce sens, on comprend pourquoi Jésus nous dit, cette parole assez étonnante, que c'est dans cette génération même, il parle de ses contemporains il y a 2000 ans, que ces événements-là vont se produire. Alors bien sûr, on pourra parler historiquement de la chute de Jérusalem sous les armées de Titus, la destruction du temple, qui évidemment pour les Juifs est un traumatisme incommensurable. Mais je le redis, à chaque génération, il y a ses peines et ses malheurs. Chaque génération peut être qualifiée d'apocalyptique, dans le sens premier du terme, de temps de la révélation, du dévoilement de quelque chose qui nous dépasse, de quelqu'un qui est proche, qui vient à nous. Je suis frappé par la finale de cet évangile qui va dans le même sens de ce que je viens de dire, parce qu'elle fait intervenir la personne du Père. Ce jour où le Fils va se révéler de façon ultime, c'est le jour que seul le Père connaît. Là encore, notre Père du ciel peut-il vouloir le mal de ses enfants ? C'est impossible, ou alors ce n'est pas notre Père. Ainsi donc, nous sommes, avec ces textes, mis devant cette exigence de nous tenir vigilants. Car cette fin des temps pourrait surgir aujourd'hui, comme dans 50 milliards d'années, mais ça n'y change rien pour nous. Car enfin pour nous, il y aura cette venue du Christ à notre dernier jour, dont personne ne connaît l'heure et la date. D'où cette exhortation que nous allons entendre indéfiniment répétée dans le temps de l'Avent qui commencera bientôt, à la vigilance, à nous tenir éveillés. pour guetter les signes de cette venue de Dieu, comme on guette les fruits du figuier qui s'annonce. Et quand la récolte s'annonce, ce n'est pas un malheur, c'est tout le contraire. Alors retenons de ces textes que Dieu nous prépare quelque chose de bon, que nous n'avons pas à craindre, mais assurément, nous avons à nous y préparer avec tout le sérieux nécessaire. Tout notre amour, toute notre espérance que nous voulons placer en lui et en lui seul.